Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Bonjour, vous vous en souvenez certainement, nous avons déjà reçu à ce micro notre collaboratrice Hélène Renard, saluée par les prix Allen pour son livre « La cuisine du bon Dieu », c'est aux presses de la Renaissance. Et c'est avec un immense plaisir que j'ai de nouveau invité Hélène Renard aujourd'hui afin d'évoquer un tout autre ouvrage couronné lui aussi par le prix Allen. Il s'agit des « Grands rêves de l'histoire » paru chez Michel Lafon. Hélène Renard, bonjour.
Bonjour.
Alors ce livre est le fruit d'un long travail de recherche évidemment, mais c'est avant tout une multitude de songes, de rêves, je dirais les rêves des grands de ce monde.
Les rêves des grands personnages historiques, voilà, ce ne sont pas des gens qui ont fait des utopies, parce que quelquefois le mot rêve est un peu ambigu, ce sont vraiment des gens qui ont fait des rêves nocturnes pendant leur sommeil, et ces rêves se sont faits à un moment crucial de leur vie et à un moment crucial de l'histoire. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Mais alors, comment avez-vous travaillé? Parce que vous n'avez pas pu rencontrer Napoléon, vous n'avez pas pu rencontrer...
Oui, même en rêve, je ne l'ai pas rencontré.
Alors, comment avez-vous fait? Vous avez travaillé sur des témoignages, des récits, des
textes? C'est tout le problème, en effet, vous avez raison de poser cette question, des sources historiques. Donc, il y a plusieurs sources. Il y a les rêves qui ont été racontés par le rêveur lui-même. Ça, c'est la meilleure source dans ses mémoires ou dans ses carnets, dans sa correspondance, etc.
Donc là, nous sommes plutôt dans les contemporains.
Non. On est dans toute période de l'histoire. On peut retrouver des documents de rêveurs qui ont relaté leurs propres rêves. Je m'intéresse aux rêves depuis plus de 20 ans. C'est devenu un peu ma spécialité, si je puis dire. Et donc, au fil de mes lectures, j'ai beaucoup accumulé de témoignages. Disons, j'ai à peu près une soixantaine de rêves historiques. Mais dans les 60, j'en ai choisi là pour ce livre seulement 40, parce que justement il fallait que les sources soient un peu plus fiables. Il y a des rêves qui ne sont pas très fiables au point de vue de la documentation historique. Donc il y a les rêves qui sont relatés par des proches et qui sont des témoins fiables quand des rêveurs ont pu le raconter à quelqu'un de fiable. Il y a des rêves qui ont été reportés par des biographes. Il y a des rêves qui sont dans des grands textes sacrés. Il y a aussi des rêves qui sont dans les textes de l'Antiquité, disons. Donc, vous voyez, nous avons un certain nombre de sources historiques fiables.
Alors, roi, empereur, président, favorite aussi. Peut-on dire, Hélène Renard, que les rêves sont proportionnels à la personnalité de chacun?
Non, pas véritablement, parce que d'abord, qu'on soit grand ou qu'on soit petit dans l'histoire, c'est pareil, on rêve, comme tout un chacun, puisque c'est quand même une fonction propre aux mammifères à sang chaud, dont nous sommes. Donc voilà, donc qu'on soit grand du monde ou monsieur et madame tout le monde, eh bien, tout le monde rêve 4 à 5 fois par nuit. Mais l'intérêt
des rêves. On s'en souvient pas.
L'intérêt des rêves des personnages historiques, c'est que s'ils ont pris ce rêve en considération, ça a pu changer leur décision. Par exemple, César, au moment de franchir le Rubicon, a fait un rêve qui l'a encouragé, justement, à aller à Rome, et il l'a fait. Constantin, à la veille de la bataille de Milvius, justement, a aussi décidé qu'il allait gagner, donc il a fait confiance à son rêve. Donc on peut dire que d'une certaine manière, ça a influencé l'histoire.
Oui, c'est ça. Vraiment, la marge de l'histoire en a été changée, littéralement.
Oui, encore qu'il y a beaucoup de personnages historiques dont, hélas, nous n'avons pas les rêves, mais il y a aussi des moments historiques intéressants à regarder sous cet angle très particulier des rêves.
Alors, on ne peut pas tous les citer, évidemment, et je renvoie directement à la lecture de votre livre, hein, Les grands rêves de l'histoire chez Michel Lafon. Je citerai quand même l'exemple de l'été, ce que vous intitulez L'été meurtrier de Sarajevo. Je vous lis volontiers, Hélène Renard. La demi de 3h du matin sonne au clocher de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, tout juste au moment où l'évêque sort brutalement d'un songe effrayant. Un cauchemar, devrait-on dire. Il en est si fortement frappé qu'il se lève, se rend en robe de chambre dans son bureau et sur le champ consigne son rêve par écrit. Il sait combien rapidement s'efface la mémoire de la nuit, aussi rédige-t-il soigneusement chaque détail. Il vient de rêver qu'il trouvait dans son courrier une lettre bordée de noir portant les armes de l'archiduc François Ferdinand. Que reconnaissant l'écriture, il décachetait le pli et en tirait une image sur papier bleu. Que celle-ci représentait un carrefour avec une automobile décapotée ou sans toit dans laquelle se trouvaient l'archiduc et son épouse, assis en face d'un général en grand uniforme, derrière leur chauffeur flanqué d'un officier. Que de la foule massée sur le côté de la rue, deux hommes armés se détachaient et qu'ils tiraient des coups de feu sur le couple. Le songe de l'évêque se réalise jusque dans ses moindres détails, y compris sa vision des deux assassins, car en vérité, il y a eu un double attentat ce jour-là à Sarajevo, et on connaît la suite, évidemment, le déclenchement de la Première Guerre.
Oui, donc puisque ça... l'attentat a eu lieu quand l'archiduc se rendait à l'hôtel de ville, et puis, c'est incroyable, parce que les services de sécurité ne l'ont pas empêché de revenir, et finalement, il s'est fait tuer au retour. Donc, il y a eu deux attentats.
Et donc, nous sommes sûrs de la véracité, ce n'est pas
oui,
une histoire, entre
guillemets. Ce n'est pas une histoire dans la mesure où il l'a consignée par écrit. Et que c'est sa famille, puisque c'était l'archevêque de Vienne, c'est sa famille qui a recueilli ce document.
D'autres exemples historiques, Hélène Renard ?
Je voudrais bien vous citer par exemple le rêve de Napoléon, parce que c'est tout de même intéressant. Donc lui, reporté par son valet de chambre Constant, on prête à Napoléon beaucoup de rêves. À mon avis, c'est un tort, parce que Napoléon était insomniaque, donc Napoléon dormait peu, donc rêvait peu par définition. Et puis c'était un homme plutôt porté sur l'action, à mon avis, que sur l'intérêt de ce qui se passait dans son inconscient, voyons. Mais donc là, le rêve que Constant reporte, c'est le rêve qui se passe au moment de l'entrevue de Erfurt, quand Napoléon rencontre le tsar de Russie. La veille au soir, ils étaient allés tous les deux au théâtre et on y jouait la pièce de Voltaire, l'Œdipe de Voltaire, dans laquelle pièce il y a cette réplique qui dit « L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux ». Entendant cette phrase, le tsar s'est levé, il a serré la main de l'empereur, enfin bon, ça y est, ils avaient enfin fini leur guerre et ils allaient se réconcilier. Donc l'empereur avait toute raison d'être rassuré. Et voilà que dans la nuit, il fait un affreux cauchemar et Constant raconte qu'il était couvert de sueur, il était dans des positions crispées, convulsionnées, enfin il était très très mal. Donc le valet réveille doucement son maître et Napoléon lui raconte « J'ai rêvé qu'un ours me dévorait le cœur ». Or l'ours n'était pas encore véritablement à cette époque le symbole de la Russie, mais c'était tout de même un animal très très familier aux Russes. D'une part à cause, je suppose, des immensités sibériennes où on devait trouver facilement des ours. Les ours, on le sait, étaient des mascottes de l'armée russe. Les ours appartiennent aux légendes, aux contes et aux mythologies de l'Empire russe. Donc, tout de suite, Napoléon, évidemment, a compris que si ce rêve devait être interprété, ça allait bien signifier que le tsar n'allait pas tenir sa parole et que leur amitié n'allait pas durer longtemps. Et Constant lui-même dit « J'ai été bien étonné parce que la phrase et le geste du tsar étaient si chaleureux, j'ai été étonné que l'empereur fasse un tel cauchemar. »
Alors il y aura également Abraham Lincoln.
Alors Abraham Lincoln, lui, il a rêvé de sa propre mort. Il se promenait dans les couloirs de la Maison Blanche où il n'y avait personne, mais où il entendait des gens pleurer. Et à un moment donné, il a fini par trouver la foule qui pleurait. Alors il s'est approché, il a vu un cadavre dont le visage était recouvert. Alors il a demandé « Mais qui pleure-t-on? Qui est mort ?» Et on lui a dit « C'est le président, il est assassiné. » Et il a soulevé le drap et il a vu son propre visage, ça dans son rêve. Et une quinzaine de jours après, il a raconté ce rêve à sa femme, Mary, et 15 jours après, en se rendant au théâtre, lorsqu'il était dans la loge, un sudiste est rentré, lui a tiré une balle dans la tête, a blessé d'un coup de couteau celui qui l'accompagnait au théâtre, et puis on a vu que le président était mort. Et donc la femme du président, Mary Lincoln, a dit, mais il avait fait ce rêve prémonitoire.
Donc ça, vous tenez ce rêve, en l'occurrence, c'est précisément de proches, la femme précisément. Il y a également les rêves racontés par les biographes.
Alors les biographes, par exemple, Descartes, tout rationaliste qu'il était, a fait trois grands rêves, que je ne vous raconterai pas à l'antenne parce qu'ils sont extrêmement longs, les trois. Vous les lirez. Mais son biographe, André Baillet, a reporté fidèlement les rêves tels que Descartes les lui avait écrits. Et puis alors le biographe Thomas de Celano, qui a écrit la vie de François d'Assise, rapporte aussi le rêve du pape Innocent III. Innocent III était le pape qui était un juriste éminent, etc., qui n'avait aucune envie de recevoir le poverello qui se traînait pieds nus avec sa robe de bure et qui sans doute n'était pas lavé depuis longtemps, faut bien dire. Donc l'ordre des franciscains, le pape, il n'était pas très très chaud pour le faire créer. Et voilà que le pape rêve. Et il rêve qu'il voit la basilique du Latran, donc la basilique de Rome, s'effondrer et soutenue de l'épaule par un petit moignillon tout minablement vêtu. Et il comprend que ce moignillon qu'il a vu en rêve, c'est François d'Assise. Et donc il va accorder de l'importance à son rêve et autoriser la création de l'ordre des franciscains. Et Giotto a peint cette scène, c'est-à-dire le rêve du pape, l'autorisation des statues, etc., sur les fresques de la basilique d'Assise.
Là, nous sommes dans le sacré et justement les textes sacrés voilà. Nous offrent aussi de beaux rêves.
Alors les textes sacrés, oui, absolument, parce qu'on est dans la conception de l'Antiquité qui est de penser que le divin s'exprime. Alors je dis le divin parce que c'est à la fois Yahvé dans la Bible, mais c'est dans toute la sphère mésopotamienne, babylonienne, gréco-égyptienne, les dieux s'expriment dans les rêves. Ça, c'est tout à fait net. Alors dans la Bible, on a répertorié de nombreux songes. Évidemment, on sait tous et on connaît tous le rêve du pharaon avec ses vaches maigres et ses vaches grasses. Et on a oublié ceux, par exemple, qu'interprète le prophète Daniel du roi Nabuchodonosor, du roi de Babylone, qui malheureusement tombe fou, le pauvre roi, et qui se voit brouter comme un animal l'herbe des champs, ce que William Blake a aussi illustré de ses très très belles gravures.
Les rêves de l'Antiquité, enfin les rêves vraiment à toute époque, pour écrire ce livre, Hélène Renard, comment avez-vous procédé? Vous avez vous-même retracé, je dirais, le cheminement du rêve en tant que tel?
La difficulté, c'était qu'on ne peut pas se contenter de dire « voilà de quoi il a rêvé et voilà ce que la réalité a montré ». Parce qu'il faut resituer les personnages. Nous avons dans ce livre 40 personnages. Il faut tout de même les resituer dans leur contexte. Parce que, bon, il y en a certains pour lesquels on a quelques notions, d'autres on a un peu oublié. L'Empire ottoman et Soliman le Magnifique, on a un petit peu oublié tout ce qu'il avait fait. Garibaldi, nous Français, on n'est pas très très au courant des agissements de Garibaldi, surtout en Amérique du Sud. Enfin bon, vous voyez, donc il fallait resituer le contexte.
Fallait romancer un petit
fallait,
peu.
Non, mais il fallait quand même raconter à quel moment le rêve se passe et montrer à quel moment... C'est un moment crucial de l'histoire, ou de l'histoire du personnage, ou de l'histoire en général. Donc il a fallu refaire un petit peu l'histoire, mais tout ça en 20 pages, pour que ce soit léger à lire et agréable. Donc c'était notre difficulté d'écriture.
Eh bien, le challenge est parfaitement rempli. Merci infiniment, Hélène Renard. Je rappelle donc cet ouvrage coécrit également avec Isabelle Garnier, Les grands rêves de l'histoire. C'est chez Michel Lafon. Bonne continuation et je vous dis à très bientôt.
À bientôt.